surtout Sylvie Mirella, qui n'est pas là ce soir et qui m'a demandé de la remplacer au pied levé. Donc je vais travailler sans filet, hein, je ne peux pas dire. Hein. Ceci étant, vous allez m'aider. Sylvie aussi, et Mirella aussi, n'est-ce pas? Donc, je vous propose de commencer d'emblée. On va peut-être commencer par Mirella sur la politique du sujet. Voilà.
Merci.
On y va.
Donc, voici donc ma modeste contribution au débat passionnant du séminaire École de cette année. Notre séminaire de ce soir devait avoir lieu le 22 mars dernier, mais l'annonce d'un mouvement massif de grève des fonctionnaires, notamment dans les transports, a fait qu'il a été décidé de reporter le séminaire à aujourd'hui. J'avais prévu au départ de faire référence au mouvement du 22 mars, mais me voici rattrapée par les événements politiques actuels. C'est ainsi, selon moi, que la politique se mêle des affaires des psychanalystes comme des affaires de tout le monde. Je rappelle juste que le 22 mars 68, l'une des revendications principales des étudiants à Nanterre, c'était le droit pour les garçons d'entrer librement dans le bâtiment des filles à la résidence universitaire.
Alors, ben...
50 ans plus tard, il paraît qu'une nouvelle révolution, entre guillemets, a lieu, cette fois-ci à l'échelle de la planète. Elle concerne toujours la sexualité et la question des limites de la liberté dans les rapports entre les hommes et les femmes. Or, au tout début de la psychanalyse, il a déjà été question de la sexualité des femmes, ce qui a provoqué un scandale à l'époque. Il me semble que le terme scandale convient aux trois séquences mentionnées ici. Pourtant, ces mouvements sociaux, en 1968 comme en 2018, font appel aux politiques pour légiférer et par là réglementer les mœurs et les modalités de jouissance de l'époque. Je reprends maintenant la citation de la leçon du 10 mai 1967 du séminaire 14, La logique du fantasme. Je rappelle que Lacan appelait alors de ses voeux un moment où, quand on sera revenu à une saine perception de ce que Freud nous a découvert, on dira « l'inconscient, c'est la politique ». En 1967, Lacan était toujours sceptique car il continuait à s'insurger contre le courant qui restait dominant dans la psychanalyse. Ainsi, dans les paragraphes qui précèdent cette citation, il se réfère à la théorie de Bergler sur le masochisme, tout en précisant sa propre théorie. Mais surtout, il fait référence, comme souvent au fil de son enseignement, à un événement géopolitique majeur de son époque pour introduire l'idée qu'être admis n'est pas toujours être admis à une table bienfaisante. Il constate qu'il existe des gens qui préfèrent être rejetés plutôt qu'être admis aux bienfaits du capitalisme, malgré des efforts déployés pour les convaincre qu'ils ont tort. Il dit même que c'est à partir de ce moment-là que devraient se poser les questions sur certaines significations. Et c'est ainsi qu'en paraphrasant Freud, il fait cette nouvelle affirmation qui nous préoccupe tant, l'inconscience collective. Lacan précise tout de suite après que c'est le fantasme qui fait lien social et qu'à défaut d'articuler sa logique, l'analyse finit par répondre à la demande d'oblativité du sujet névrosé. Dans le jeu de l'offre et de la demande, l'analyste non seulement ne répond pas à la demande de l'analysant, mais de plus, il ne demande pas. Il encourage l'analysant à parler pour qu'éventuellement les formations de l'inconscient de celui-ci puissent advenir. À propos du fantasme, je fais une parenthèse en rappelant que la psychanalyse est née à la même époque que le cinéma. Plus précisément, la première projection d'un film des Frères Lumière a eu lieu en décembre 1895, l'année de la publication par Freud et Breuer des études sur l'hystérie. Qui plus est, la première séquence du film en question montre la sortie d'usine d'un grand nombre de femmes. C'est très intéressant, je trouve, de revoir ce petit premier film. La psychanalyse, comme le cinéma, s'intéresse à l'imaginaire, s'appuie sur le symbolique et tente de rendre compte de quelque chose du registre du réel. La psychanalyse découvre le rôle du fantasme et du souvenir écran, alors que le cinéma utilise l'écran pour projeter des images. Cependant, le cinéma s'attaque couramment à la politique, prend position même parfois, et si on y regarde de plus près, il est le plus souvent politique. Il nous suffit de remarquer les exploits de Buster Keaton, Laurel Hardy, Charlie Chaplin et des autres tenants du cinéma muet, sans oublier Buñuel et Dalí. Plus près de nous, j'ai choisi un réalisateur américain, parmi tant d'autres, Jim Jarmusch et son récent film Patterson. Le titre annonce la polysémie qui caractérise ce film et la question de la transmission qui le traverse d'un bout à l'autre. Car s'il s'agit de poésie dans ce film, il y est question néanmoins de politique, non seulement celle du poète dans la cité, Polis, mais aussi celle du cinéaste américain qui rend hommage dans ce film au cinéaste japonais Akira Kurosawa et qui, en plus, fait surgir de nulle part, vers la fin du film, un japonais, précisément, pour venir en aide au jeune poète américain lors de son pire moment de détresse. Et à propos de quoi cette détresse? De la possibilité ou non de poursuivre son travail de transmission par écrit, lorsque tous ses efforts passés viennent d'être détruits en un instant de fureur sauvage. Ainsi, l'histoire des personnages fait écho à l'histoire avec un grand H. Freud aussi a fait de la politique toute sa vie à sa manière. Sa politique était la psychanalyse. Malgré les adversités, il n'a jamais abdiqué face aux troubles et aux rejets provoqués dans la société de l'époque et parmi ses confrères, par sa théorie et sa pratique psychanalytique. Sexualité féminine, scandale à Vienne. Et comme on disait, ce n'est pas fini en 2018, ni à Vienne ni ailleurs. Sexualité infantile, horreur. Freud reste seul à ce moment-là et il tient bon. Névrose obsessionnelle et religion, désir inconscient, pulsion, formation de l'inconscient, angoisse et malaise dans la culture. Même ses patients s'opposent parfois à lui. Par ailleurs, et ce point me semble essentiel, il n'a pas non plus transigé devant la montée du nazisme, contrairement à d'autres psychanalystes européens. Lacan a perpétué les efforts de Freud pour ce qui est de l'éthique de la psychanalyse. Non sans peine, non sans trahison, dénonciation, exclusion. Engagement politique donc. Pour les psychanalystes, un aspect de l'engagement politique, certainement le plus important, c'est la poursuite du travail analytique dans la cure, selon l'éthique de la psychanalyse telle qu'elle a été transmise par Freud et Lacan. Dans le cadre de la cure analytique, les formations de l'inconscient sont ceux à travers quoi le sujet exprime sa politique, même lorsqu'il n'a pas pour projet de le faire. La politique du sujet, c'est son inconscient sous transfert. J'ai choisi de mettre en avant aujourd'hui Levitz, car par sa nature, il me semble qu'il est politique. La traduction française, mot d'esprit ou trait d'esprit, présente l'inconvénient d'être plus explicite et d'utiliser le signifiant esprit, là où Witz garde entière toute son équivoque et en une seule syllabe renvoie à sa dimension d'éclair. Lacan, en proposant de traduire Witz par trait d'esprit, souligne son caractère fulgurant. En allemand, Witz rime avec Blitz, qui veut dire éclair, et l'on comprend mieux qu'il s'agit d'un instant pas vraiment contrôlé, d'une production verbale en lien avec l'inconscient, différente des jeux de mots de la tradition du XVIIIe siècle français. Le mot d'esprit, qui rend nécessaire la participation de la tierce personne, comme l'écrit Freud, permet au sujet de trouver sa reconnaissance et sa satisfaction dans l'autre, dans l'instant de rire. On peut jouir tout seul du comique, nous explique Freud en 1905 dans son ouvrage « Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient », Par contre, on est obligé de transmettre le mot d'esprit à autrui. Freud parle même de pulsion de transmission. Elle conduit le sujet à se séparer du produit de son élaboration solitaire, die Witzarbeit, le travail du Witz, dit Freud, qui devient donc Witz dans le partage avec l'autre. La surprise et le rire de l'autre produisent une décharge pulsionnelle chez lui, mais aussi chez le sujet qui est l'auteur du Witz, et c'est ainsi que le trait d'esprit se fait lien social. La preuve en est qu'il ne peut pas être calculé, préparé à l'avance. Le faiseur de mots, selon Freud, ne trouve le repos qu'après avoir obtenu la décharge par l'intermédiaire de la tierce personne, indispensable à ce processus et qu'il utilise donc pour arriver à ses fins. C'est le fait que la transmission est incontournable dans le cas du Witz qui a attiré mon attention, car il me semble qu'il n'y a pas de politique sans transmission. Familionnaire, l'exemple par lequel commence le texte de Freud sur le mot d'esprit, et qui est dû à l'œuvre de Heinrich Heine, est bien connu. Cependant, je voudrais souligner ici l'attention que Freud a portée au fait que le personnage auquel Heine a fait dire ce Witz avait les mêmes initiales que le poète et une situation économique assez semblable comparée à celle de son entourage. Heinrich Heine avait une situation assez compliquée dans sa propre famille. Ce mot d'esprit, qui n'en est pas tout à fait un, dans la mesure où il apparaît dans une prose travaillée par son auteur, se caractérise par une incontestable amertume, dit Freud, et introduit l'épineuse question du lien social, de la différence des classes, etc., donc de la politique, en sachant que Heine était lui-même un poète visionnaire, compte tenu de ce qu'il a pu dire sur ce que l'esprit allemand allait probablement produire au XXe siècle, ce qui s'est avéré vrai. Très engagé sur le plan politique, engagement qui lui a coûté cher et qu'il est même considéré par certains spécialistes comme le fondateur du journalisme politique moderne. Alors, nous avons fait maintes fois depuis le triste constat que le talent et l'engagement de journalistes plutôt versés dans l'art des jeux de mots, de l'ironie, de la caricature et du mot d'esprit, peuvent avoir des conséquences dramatiques en déclenchant des réactions extrêmes de la part de certains individus ou d'un pouvoir étatique. Dans les régimes totalitaires, le statut du Witz est très particulier en tant que véritable arme à plusieurs tranchants, puisqu'elle peut mettre en danger l'auteur du mot, ainsi que le public qui y adhère, ou bien une partie seulement de ce public. Sa subtilité est de mise, l'enjeu est vital, l'équivoque y joue les funambules. Dans l'interprétation des rêves, Freud prend l'exemple d'un oubli de rêve pour illustrer le problème de la censure, de la résistance pendant la cure. C'est la remémoration par la patiente d'un mot d'esprit, le fameux Witz du Pas-de-Calais, qui permet lors d'une deuxième séance de mettre en lumière le scepticisme de cette femme à l'égard de Freud et de la psychanalyse. Une patiente qui avait même une admiration qu'il considérait lui un peu exagérée envers lui. Ça a été un peu compliqué de faire ressortir l'affaire, mais le Witz a été ce qui lui a permis finalement à cette patiente de s'exprimer ainsi. Nous avons donc ici à la fois l'exemple d'un rêve, d'un oubli, d'un mot d'esprit et de la narration d'un mot d'esprit en séance, le tout non sans rappeler la discorde entre français et anglais. Il me semble que la politique du sujet, ici, l'analysante de Freud, s'exprime finalement sous transfert, dans la cure analytique, ne serait-ce que timidement, comme il le souligne lui-même. Il insiste Freud sur le fait que tout cela s'exprime très timidement. Le mot d'esprit offre très souvent une phase polémique, une pointe plus ou moins acérée, qui, dans certaines conditions de réception, vaudra offense, soulèvera indignation ou scandale. Freud montre que le rapport à l'autre déclenche l'intervention de la censure morale et que le fait de se moquer ne peut se faire qu'à l'abri du trait d'esprit. Ce qui, donc, est bien rendu dans cet exemple dans l'interprétation de Freud. L'un des exemples choisis par Freud pour évoquer le mot d'esprit fondé sur un déplacement, donc un autre type de mot d'esprit, qui est donc assez indépendant de l'expression verbale, mais tient à la démarche de pensée, est repris aussi par Lacan. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui s'est appauvri et qui obtient de l'argent de la part d'un riche. Seulement le jour même, son bienfaiteur le voit au restaurant, attablé devant un plat de saumon à la mayonnaise. Face aux reproches du riche prêteur, le pauvre répond d'un air étonné. Il ne comprend pas le mécontentement de son interlocuteur, car lorsqu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas s'offrir de tels mets, et quand il a enfin de l'argent, il ne doit pas en manger. Donc il conclut, « Mais quand diable voulez-vous que je mange du saumon à la mayonnaise ?» Et Lacan soutient, quant à lui, que le rapport à l'autre met en jeu, à condition de les distinguer de la bonne façon, la demande et le désir. Ainsi, le riche s'insurge, car il veut ignorer, dit Lacan, que l'ingratitude est la condition même de la demande. Je vais essayer maintenant d'illustrer à travers quelques exemples de ma clinique la force avec laquelle des formations de l'inconscient parviennent à exprimer la position du sujet et comment des lapsus, des mots d'esprit, des rêves témoignent aussi du fait que l'inconscient c'est la politique du sujet selon moi. Une fillette âgée de 9 ans parle en séance de ses soucis avec sa tablette qu'elle ne peut plus utiliser car elle en a oublié le code. Je lui demande s'il s'agit du mot de passe et elle me confirme qu'elle appelle cela le code. Elle sait qu'elle a fait un rêve, mais elle dit « Je ne crois pas que je m'en souviens pas ». La fillette veut continuer à parler, mais elle voit que je souris et alors elle éclate de rire, suite à quoi elle finit par raconter son rêve. Revient en mémoire tout à l'heure. Cette jeune patiente si secrète, qui exprime si peu ses préférences, préférences que ses parents aimeraient tant connaître au quotidien, me dit à travers ce lapsus qu'elle sait qu'elle a accès à son désir au moyen du souvenir du rêve. Dans le rêve, elle a laissé sa tablette se charger toute la nuit, pendant qu'elle-même dormait. À son réveil, dans le rêve, elle pourrait allumer la tablette qui fonctionnait parfaitement à nouveau sans lui demander le fameux code oublié. L'oubli du mot de passe permet à cette fillette de mettre à distance son entourage, ses parents, du secret de son désir, tout en l'immobilisant pour l'aider à réparer sa tablette, les confrontant pendant plusieurs semaines par là même à l'échec. Par contre, dans son rêve, la question de l'oubli et donc du refoulement ne se pose plus et son souhait de jouer avec sa tablette s'accomplit en l'absence de tout témoin. Elle signe ainsi une forme de séparation de son désir d'avec le désir de l'autre. Son désir inconscient, c'est sa politique. Un autre exemple concerne un jeune homme obsessionnel confronté aux doutes et à des difficultés à s'engager. Ainsi, il doute de son engagement amoureux. Il se plaint aussi d'être fauché, et alors même qu'il a un travail, il craint pour ses projets d'avenir. Au retour d'un petit séjour à la montagne, avec sa copine, il me raconte qu'un après-midi, ils sont entrés dans un restaurant d'altitude pour prendre un café. Ils ont été séduits par l'intérieur charmant et la carte du restaurant, ce qui fit dire à sa copine qu'il devait y retourner le lendemain pour y déjeuner. Tout en voulant lui exprimer son adhésion enthousiaste à ce projet, il lui dit « Ah oui, et je vais même prendre une salade de frites !» C'est en voyant son ami éclater de rire qu'il comprit surpris ce qu'il venait de dire et qu'il rit à son tour. « En effet, me dit-il, en lisant la carte, il avait longuement regardé, non sans une certaine crainte, les prix des différents plats, y compris celui de la barquette de frites. Il ajouta soulagé qu'il venait de réaliser, à l'occasion de son vitz, que sa copine savait qu'il lui racontait des salades. J'ai alors levé la séance et la fois d'après, il m'a appris qu'ils allaient bientôt se fiancer. J'ai un doute quand même. À mon doute. L'inconscience et la politique du sujet, mais pas sans l'analyste, comme cet analysant le démontre en racontant son mot d'esprit en séance. Je ne peux me résoudre à conclure ce texte sans évoquer un point qui me semble essentiel pour ce qui est de la psychanalyse aujourd'hui. C'est la question du travail en institution. Pour ma part, je peux témoigner du travail dans des institutions où il s'agit de l'accompagnement éducatif dans le cadre de la protection de l'enfance. Lors des entretiens cliniques, et il y en a beaucoup, si le sujet reçu en entretien n'est pas écouté, y compris pour ce qui est de ces productions de l'inconscient, je pense que l'on passe à côté, entre autres, de ce que j'appelle ici la politique du sujet, en tant que sujet de l'inconscient. En effet, pas de cure analytique dans ce cadre. Mais des psychanalystes travaillent encore dans des institutions qui vont même jusqu'à exiger parfois, à l'embauche, cette compétence chez les psychiatres et chez les psychologues. Selon moi, même l'entretien unique, à partir du moment où il est mené par un psychologue ou par un psychiatre orienté par la psychanalyse, permet d'éclairer le sujet sur sa position politique, c'est-à-dire sur son rapport singulier à l'inconscient. Voici un bref exemple. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans. Comme son frère, il a été longtemps pris en charge dans différents types d'institutions de soins et d'accompagnement éducatif et scolaire. Il manifeste depuis un certain temps une forme de repli sur soi, avec un absentéisme scolaire de plus en plus important. Il refuse catégoriquement toute forme de suivi psy, comme il dit, car selon lui, les suivis psy, ça, c'est pour les fous. Incité par les travailleurs sociaux, puis contraint par sa mère, il accepte de venir me voir une fois et je lui fais comprendre dès le départ qu'il s'agit d'un entretien unique. Je lui rappelle aussi la règle selon laquelle notre équipe pourra lui indiquer les coordonnées d'une institution où il pourrait rencontrer un thérapeute s'il le souhaite. Il parle beaucoup et volontiers. Et puis, je l'interroge sur son père, dont on m'a dit qu'on ne savait rien, si ce n'est qu'il était absent depuis très longtemps. Selon les travailleurs sociaux, c'était un sujet tabou pour lui, comme pour sa mère. Le jeune me dit alors que son père est parti lorsqu'il avait 2 ans et qu'il lui en veut énormément. Il a appris récemment que son père a refait sa vie et qu'il a une fille âgée de 2 ans qu'il élève. Je lui pose alors la question suivante. Pourquoi est-ce que tu lui en veux à ce point-là? Ce à quoi il me répond, parce qu'il s'occupe plus d'elle que de ses propres enfants. J'ai souri, ce qui l'a déconcerté et ému. Son énoncé ressemble à un mot d'esprit, vu qu'on y retrouve plusieurs techniques du vitz mises en avant par Freud. Condensation, substitution, utilisation du même matériel, double sens, l'adresse à l'autre et le caractère inattendu pour le sujet lui-même. Je lui ai attiré l'attention sur ce qu'il venait de dire, alors que sa petite demi-sœur est tout autant l'enfant du père que lui et que son frère. Il n'était pas content. Lorsque j'ai arrêté l'entretien, je lui ai rappelé que c'était un entretien unique. Une semaine plus tard, il a téléphoné à son éducateur spécialisé, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, en disant qu'il voulait prendre rendez-vous avec un psy. J'ai appris par la suite qu'il était aussi retourné au collège. Je fais l'hypothèse que chez cet adolescent, la formule de Lacan, l'inconscience et la politique, se confirme par son refus de parler, qui s'avère ne pas en être un, à condition d'aller chercher le sujet. Voilà, merci.